On peut revenir au résumé. Et lire. On voit le fardeau principal de cette conférence, c'est d'achever la sanctification dans la crainte de Dieu pour le sacerdoce et la préparation pour le retour du Seigneur. Amen. Achever la sanctification ou perfectionner la sanctification. Ça veut dire qu'on doit atteindre la perfection de la sanctification. On est très bientôt en 2020. Le Seigneur veut vraiment nous amener à la perfection. Et si on prend le temps, si on prend le temps, le Seigneur prend le temps, mais il ne va pas attendre pour toujours. Et on voit que le temps est court, les jours s'enchaînent. Et on doit avoir une crainte pour son retour et pour son sacerdoce. Donc, le chemin de la sanctification, j'espère que ça nous impressionne vraiment parce que notre Dieu est saint. Il est saint. Et tout ce qu'il fait est saint. Là où il habite, c'est un lieu de vie saint. Ce qu'il fait et le résultat de ce qu'il fait doit être saint. Dans ces jours, en se concentrant sur le fait d'être perfectionné dans la sanctification, on voit ce sacerdoce et ces dernières années, on s'est exercé à être dans l'exercice de ce sacerdoce d'adorer Dieu, de lui amener des offrandes. Et là aussi, on voit que ce n'est pas juste d'être des sacrificateurs, mais le Seigneur ne veut pas juste un sacerdoce, mais il veut un sacerdoce saint. Donc, ça, c'est vraiment les caractéristiques de notre Dieu vivant. C'est vraiment devenu très important. On voit toutes ces caractéristiques. Qui est Dieu? Ça, on voit vraiment maintenant que c'est très important. Le Seigneur veut juste une église? Non. Il veut une église glorieuse. Parce que lui, il est glorieux. Donc maintenant, tandis qu'on apprend encore à être ses sacrificateurs, à être édifiés en tant qu'un sacerdoce, on doit voir qu'il veut un sacerdoce royal et saint. C'est une caractéristique de notre Dieu et Père. Il est glorieux, il est saint. Donc ce n'est pas juste maintenant d'avoir un sacerdoce, mais on doit avoir un sacerdoce saint. Et là, les versets dans le psaume, on voit qu'on doit le servir dans la beauté de la sainteté. Tu veux amener une offrande comme en tant que nourriture pour notre Père? Tu crois qu'il va l'accepter n'importe comment? Non, dans chacune des offrandes, c'est marqué que ça doit être très saint pour le Seigneur. Donc même les offrandes, l'adoration sont dans la beauté de la sanctification. Le sacerdoce saint est vraiment crucial. Et ce soir, on va surtout rester dans Exode 28. On va voir ces ornements du sacrificateur. Nous sommes tous appelés et choisis pour être des sacrificateurs, pour être édifiés comme des pierres vivantes. Toi et moi, on n'est pas juste une église, mais on est des sacrificateurs pour lui. Prenons un exemple. Disons que John, tu reçois une lettre de la Maison Blanche, de la part du président lui-même, une invitation, ou même plus, une offre d'emploi pour faire partie du gouvernement et déménager à Washington et avoir une part dans le fait de rendre la nation grande à nouveau. Je pense que tu vas l'apprécier. Tu le prendrais comme un honneur, comme un privilège.
Waouh!
J'ai été choisi. J'ai été choisi pour faire partie de ce grand plan. Et tu... Tu serais vraiment honoré de recevoir un tel privilège. On a été choisi. On a été choisi par le Seigneur lui-même pour être des sacrificateurs, pour être ses ministres, pour avoir cette administration devant lui. Exode 28.
Verse there. Now take Aaron, your brother, and his sons.
Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Verset 1. Exode 28, verset 1. Approchez de toi Aaron, ton frère et ses fils. Prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service pour le sacerdoce. Quel privilège! Et on voit que c'est un don qui a été donné à toi et moi. Est-ce qu'on apprécie vraiment cela? J'en perds mes mots parce que c'est vraiment un appel élevé et c'est un honneur. C'est vraiment un honneur devant le Père. Prends Aaron et ses fils. Et nous, en tant que sacrificateurs, et en tant que ses fils, nous avons hérité cela. Et toi, John, si tu arrives à ton premier jour à ce poste, est-ce que tu vas juste mettre n'importe quoi? Non, tu vas vraiment considérer les pieds à la tête comment tu vas te présenter à la Maison Blanche? Comment tu vas être habillé pour rencontrer le président? Tu vas prendre soin de cela d'une manière adaptée. Donc, ça continue ici. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure.
Holy garments for Aaron, your brother, for glory and for beauty.
Pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. En anglais, c'est pour la gloire et pour la beauté. Qu'est-ce qu'on exprime? De la même manière que ça, ce serait un fardeau pour John. Et comment est-ce qu'on apparaît, nous, devant le Seigneur? Comment on exprimerait notre nature dans la maison de Dieu, dans l'administration et l'approche de notre Seigneur Jésus? Et là, on voit que Aaron devait revêtir des vêtements sacrés pour la gloire et la beauté, pour la dignité et la parure. Et si on va au verset 40, aussi pour ses fils, pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. De nouveau, pour la gloire et pour la beauté. De nouveau, la même expression. De même que Aaron était le souverain sacrificateur. De même, ses fils, nous ses fils, on a les mêmes caractéristiques pour la dignité et pour la parure. Et ça, c'est ce que Dieu fait. Ce qu'il fait a une expression de gloire et de beauté. Avant cette conférence, j'avais rarement ou même pas mis la sainteté avec la beauté. On a un concept de la sainteté. Et louer le Seigneur pour ces jours, c'est pour la beauté. C'est pour vraiment sa beauté. Pour la gloire et pour la beauté. Et ici, ça continue une description de comment ce souverain sacrificateur devait être habillé pour servir et pour entrer dans le temple.
Amen.
Il y avait un effort à faire. Verset 5. Ils empleront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Tous ces matériaux sont des magnifiques images de Christ aujourd'hui, comme le merveilleux souverain sacrificateur aujourd'hui. L'or, le premier matériel décrit de sa parure extérieure, c'est l'or. Est-ce qu'on gagne de l'or aujourd'hui? Est-ce qu'on exprime de l'or aujourd'hui? Exprimer Christ, c'est vraiment décrit ici. L'or, sa divine nature, dans tout ce que Christ a fait, il exprimait le Père. Partout où il est allé, peu importe ce qu'il disait, peu importe ce qu'il faisait, il exprimait son Père. Dans Hébreux, il dit, il était l'expression de la gloire de Dieu. Et là, on voit vraiment cet or qui est glorieux, qui est quelque chose de glorieux, qui est la nature divine de Dieu que Christ exprime. Et aussi nous, en tant que les sacrificateurs, les fils d'Aaron, on doit exprimer Christ, être des sacrificateurs dans le saint sacerdoce. On doit faire attention, qu'est-ce qu'on exprime? On doit revêtir Christ et on doit gagner cet or dans notre marche quotidienne. Amen. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi. Il est le roi de paix. Amen. Et de fin lin. Le cramoisi, pardon. La couleur de la rédemption. Il nous a rachetés d'entre les hommes. Amen. Un grand prix et de fin lin. Le fin lin ou les œuvres justes des saints. Déjà dans cette description, on voit combien il est merveilleux, combien ce que notre souverain sacrificateur revêt, qu'on puisse voir la beauté de Christ dans cette description. Et ensuite, on voit plus loin. Il fallait sur les deux épaulettes, verset 7. Il devait y avoir les pierres avec six des noms sur une pierre et six des autres noms sur la seconde pierre. C'est jusqu'au verset 10. Afin que Aaron porte, verset 12, leur nom devant l'Éternel sur ses deux épaules. Quel merveilleux souverain sacrificateur porte constamment cette intercession pour nous. Il porte constamment tous ses enfants, tous les enfants de l'Éternel sur ses épaules. Est-ce que nous sommes de tels sacrificateurs? Est-ce que nous portons chacun des croyants, des enfants de Dieu sur nos épaules? Est-ce qu'on prie pour eux? Est-ce qu'on est préoccupé pour eux? De même que le souverain sacrificateur intercède pour chacun en tant que les enfants d'Aaron. Apprenons, pas juste nous intéresser à eux, mais vraiment les porter sur nos épaules. Comme Paul, quel magnifique exemple. On peut lire cela rapidement dans Colossiens. Paul lui-même dit, je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui prie toujours pour nous, qui intercède constamment pour nous. Il est un tel sacrificateur qui prie constamment pour les saints. Et dans Philippiens, au début, je rends grâce à Dieu dans toutes mes prières, faisant des requêtes pour vous avec joie, en faisant des intercessions pour vous. Pour les chrétiens, de les porter sur nos épaules comme des sacrificateurs qui avons de telles pierre gravée avec tous les noms des enfants d'Israël. Et ensuite, on voit un autre aspect de cela, de ce. On voit ensuite le pectoral, de nouveau avec les mêmes matériaux. Verset 15, de l'or, des fils bleus, pourprés, cramoisis, des fins, du fin lin retors. Et de nouveau, enchâssés avec les pierres, chaque pierre qui nous rappelle la nouvelle Jérusalem. Là, là, il avait vraiment le, les 12 pierres sur son pectoral. Sur sa poitrine, il portait constamment, il porte constamment cela. Que nous soyons tous, que nous ayons tous un tel fardeau pour le plan et le fardeau du Seigneur, comme ses sacrificateurs, pour avoir vraiment le soin pour Dieu, pour le plan de Dieu.
Amen.
Amen. Et ensuite, au verset 30,
you shall put in the breastplate of judgment the Urim.
Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim. C'était deux pierres.
And they don't know much about it, but Urim means light.
L'Urim signifie la lumière.
And Thummim means
et le Thummim signifie la vérité
perfection.
Et la perfection.
How do we reach perfection?
Comment est-ce que nous atteignons la perfection? Si ce n'est pas par la lumière, par l'éclairage de l'huile sainte, du Saint-Esprit qui nous guide et qui nous enseigne toutes choses. C'est vraiment cette onction que nous avons, qui nous guide dans toute la réalité. Là aussi, sur le pectoral, on doit vraiment voir pour connaître quel Dieu nous avons, pour connaître sa parole aujourd'hui. Comment allons-nous le rencontrer en tant que notre sacrificateur, si ce n'est par l'Esprit. Et ensuite, on voit encore la ceinture.
Wherever you go, whatever you do, you will be heard.
La tiare et le bonnet. On peut être blessé dans notre service. Dans la maison du Seigneur, beaucoup de choses sont exposées. Il s'agit de la tiare de lin et du diadème d'or. Si on revêt Christ, on n'a pas à être honteux de quoi que ce soit. Mais on a besoin aussi de. On a aussi besoin de cette ceinture d'or. Cette ceinture, elle va sonner. Si tu es chez toi, tout seul. Tu fermes la porte. Pourquoi tu fermes la porte? Pour cacher. Tout doit pouvoir être vu. On devrait tout faire de manière visible. Dans la lumière et plein de vie. Comme une grenade. C'est plein de vie. Il y a plein de graines. Soyons de tels sacrificateurs que partout où nous allons, dans tout ce que nous faisons, ce soit rempli de vie et de Christ. C'est une magnifique description des habits du sacrificateur. Ensuite, il avait aussi un bonnet. Sur le diadème d'or, c'est écrit « Sainteté à l'Éternel » pour être séparé pour Dieu. Ça devrait être vraiment visible en plein sur notre front, en plein milieu de notre tiare, notre bonnet. Que vraiment nous marchions d'une telle manière en exprimant Christ. C'est une description magnifique de toutes les caractéristiques de Christ, notre souverain sacrificateur, mais aussi nous, en tant que ses enfants, ses sacrificateurs. Et aussi pour la beauté et la gloire du Seigneur. Amen. En tant que ce sacerdoce saint, que nous puissions apprendre et prendre Christ, revêtir Christ dans tout ce qu'on fait, ensemble, seul, dans peu importe ce qu'on fait, pour la gloire de notre Seigneur. Amen. J'aimerais juste ajouter par rapport à ce matin. On m'a dit que j'étais trop rapide avec les versets, j'en suis désolée. Des problèmes de micro. J'aimerais juste ajouter quelque chose concernant
avoid having the appearance of evil.
Le fait de fuir 1 Thessaloniciens, le fait de fuir tout ce qui est du méchant, tout ce qui est négatif, c'est vraiment ce qu'on voit avec le Seigneur quand il parlait à Nicodème. Il allait m'en parler avec lui. mais pour parler à la femme samaritaine, il ne l'a pas fait dans la maison et de nuit. Montre vraiment, lui qui était si pur, on doit vraiment, il agissait de manière ouverte. Il était midi, en plein jour, à l'extérieur avec la Samaritaine. Et on voit avec le Seigneur, même avec son humanité parfaite, il a évité toute forme d'apparence mauvaise. On doit vraiment avoir cette attitude dans notre marche de fuir toute apparence de choses mauvaises. Même si on sait que rien ne peut arriver, de vraiment faire attention que les gens ne puissent pas raconter, même imaginer des choses mauvaises. Nous devons suivre un tel exemple de notre Seigneur. Je crois que c'est vraiment le meilleur moyen de le voir, que le Seigneur était un exemple. Et un autre aspect que j'aimerais aussi amener, c'est l'exemple de Paul. Quand on voit sa pratique et sa recherche de la sainteté, très souvent, il a dit « Dieu m'en est témoin ». Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 5. Jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Et aussi dans, déjà au verset 6, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Et aussi verset 10. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Paul pouvait dire « Dieu m'est témoin ». Je ne peux pas dire une telle chose. Souvent, personne ne m'a vu, mais Dieu me voit. Dieu voit tout. Paul était tellement exercé que même quand personne ne le voyait et qu'il était seul, il pouvait dire « Dieu m'est témoin ». Je loue vraiment le Seigneur pour ça. Et j'aimerais vraiment pratiquer et m'exercer d'une telle manière pour qu'un jour je puisse aussi dire comme Paul, Dieu m'est témoin. Parce que Dieu ne voit pas seulement mes actions extérieures, il sait aussi mes pensées, il sait toutes choses, il sait mes actions aussi cachées. Paul exerçait vraiment cela et il s'entraînait à la sainteté d'une telle manière. Pour ça, il pouvait vraiment dire « Dieu m'est témoin ». Bien sûr, j'apprécie qu'il ait aussi partagé que il était toujours prêt à oublier tout ce qui est en arrière. On chute tous. On est tous dans un processus de perfectionnement. Mais quand il tombe, de ne pas abandonner et de ne pas en rester là. Dans un sens, on ne doit pas juste être découragé. On ne doit pas le prendre non plus légèrement. On doit vraiment se repentir sincèrement. Mais on doit aussi être capable d'oublier ce qui est derrière pour être capable d'avancer. Amen. Il y a tellement de points et d'aspects. Jusqu'à ce point, il y a tellement de... Il y a tellement de points qui nous montrent le chemin de la sainteté, la sanctification. On doit réaliser que la sanctification, ce n'est pas juste un aspect de Dieu, des caractéristiques de Dieu, mais c'est sa nature tout entière. Dans tout ce qu'il fait, tu peux voir la sainteté. Tu peux voir que tout ce qu'il a fait était pur. Pas de corruption. Pas de... Rien de faux, rien de mauvais en lui. Souvenez-vous que Dieu est saint et juste dans ses actions, saint dans sa nature, juste dans ses actions et glorieux dans son expression. Ces trois aspects décrivent notre Dieu merveilleux. Et pas seulement sa description, ça devrait être aussi pour nous. Quand on lit, la vie de l'apôtre Paul, on voit que c'était la manière dont il s'exerçait à être, il s'exerçait à avoir une bonne conscience devant Dieu et les hommes. Il exerçait vraiment cela, comme nous avons lu, comme George a lu. 1 Thessaloniciens 2. Il était vraiment confiant. Verset 4. 1 Thessaloniciens 2, 4. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Il avait été approuvé pour porter l'Évangile. Souvent, je vais juste parler. Ou on va parler ou juste vouloir partager un point. Sans vraiment lui demander qu'est-ce que lui, il veut vraiment dire. Même si on ne parle pas pour plaire aux hommes, si on parle pour plaire aux hommes, alors on peut employer beaucoup de choses pour essayer de les impressionner, pour essayer de les rendre plus clairs, de comprendre mieux de quoi on parle. On peut donner toutes sortes d'illustrations. Mais Paul, Pierre, Jean, ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais agi d'une telle manière. Et ils continuent de dire, jamais, en effet, nous n'avons utilisé des paroles flatteuses. C'est quoi des paroles flatteuses? Si tu plais aux gens, tu dois employer des paroles flatteuses. Mais il n'a jamais employé ça. Parce que son but n'était pas de plaire à qui que ce soit, mais de parler de manière fidèle à ce que Dieu voulait partager. Et comme vous savez, jamais nous n'avons eu employé nos paroles pour produire un gain, pour gagner une position, pour être loué par les gens. remercié par les gens. Paul n'a jamais fait ça et c'était pas ce qu'il voulait. C'est pas facile de pratiquer cela. En ne cherchant pas la gloire des hommes, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. N'a pas cherché la gloire ou des remerciements de la part des hommes, ni de vous, ni des saints donc, ni des autres. Mais nous avons été plein de douceur au milieu de vous, même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Paul nous enseigne comment prendre soin. Il a vraiment pris soin de manière à ce que tout le monde puisse comprendre. Mais il n'a pas eu une attitude d'enseignant. Son but n'était pas d'enseigner. Souvent, quand on partage quelque chose de manière traditionnelle, notre but n'est pas de nourrir les frères et sœurs, l'Église. Mais notre but, c'est plutôt de leur faire comprendre. Et comment est-ce que je peux faire pour que Kyle comprenne? Alors, je vais prendre plein d'exemples pour que Kyle comprenne. Ça, c'est la manière dont on partage. Mais Dieu, dans toutes ses pensées, cherchait à nourrir les saints. Quand on lit les épîtres, on voit qu'il a vraiment agi de manière à nourrir. Et il parle aux frères en leur disant « Mais je ne vous ai même pas donné de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter. » On voit que c'était vraiment son fardeau. Il s'inquiétait vraiment de l'édification, de l'encouragement des saints. Peut-être que tu vas ou non comprendre. Quel est le point pour Paul? C'était de nourrir. Comme une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Quel magnifique service. Ça, c'est vraiment le service des sacrificateurs pour Dieu, mais pas seulement. Il prépare aussi à manger pour les saints. De manière à ce que le Seigneur ait trouvé... Est-ce que le Seigneur va venir voir si, à la fin, si tu as préparé un bon message ou si tout le monde porte du fruit? Tu n'es peut-être pas un bon cuisinier, mais dans ton cœur, tu peux demander, Seigneur, quelle nourriture est-ce que je peux t'amener? Présente à toute ta maisonnée de la nourriture. Si le Seigneur vivant, si le Dieu vivant veut, un des aspects de son enseignement, c'est qu'on est à manger. Mais nous, on enseigne comme les pharisiens et les scribes. On n'amène pas au Seigneur. C'est juste la connaissance. Mais ça ne donne pas la véritable nourriture. C'est pour ça qu'il dit que l'esprit est esprit et vie. C'est pour ça qu'il a eu l'attitude d'une nourrice. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, 1 Thessaloniciens 2, 8. Quelle est notre affection pour les gens? Non seulement Nous aurions voulu non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. C'est fou. Le Seigneur n'est pas juste venu pour nous enseigner la vérité à propos de Dieu, mais il est venu nous donner sa propre vie. Et Paul a appris cela, en fait, du Seigneur, d'agir d'une telle manière. Vous lui donnez non seulement l'évangile de Dieu, mais aussi sa propre vie, tant les saints étaient devenus chers. Il était vraiment à l'image de Christ. Il vivait Christ. Il avait revêtu Christ. Il disait pas moi, mais Christ. Donc pour tous ses serviteurs, pour tous ses, dans tout son service, il était avec Christ. Vous rappelez, frères, notre travail, notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous, pour n'être un fardeau pour aucun de vous. Amen. Que nous soyons plus de tels serviteurs. Amen. Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. Que nous avons eu. C'est vraiment l'expression de Dieu, la sainteté. Et pas juste faire les choses justes, mais une conduite sainte, juste et irréprochable, juste comme le Seigneur. Ils n'ont pu trouver aucune faute en lui. Même Pilate a dit, oh, quel homme! Amen. Une conduite sainte, juste et irréprochable. Ils ont eu parmi les saints. Vous exhortons. Il n'a pas dit vous enseignons, mais vous exhortons. Vous exhortons. Pas juste enseigner. Vous consolons. Conjurant chacun de vous de marcher d'une manière digne de Dieu. C'est vraiment comme un père. Il a vraiment été un parent pour ses frères et sœurs, comme un père qui reprend, qui enseigne, qui corrige, comme une nourrice, comme une mère qui donne à manger. C'est fou. Ça, c'est la sainteté. Ce frère a vraiment servi comme le Seigneur lui-même a servi. Apprenons. Si nous pouvons avoir de tels frères et sœurs servant d'une telle manière dans l'Église. Paul est un exemple. Amen. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Tu ne peux pas demander aux gens de t'imiter quand tu t'imites toi-même. Mais Paul était un imitateur de Christ, ce qui signifie qu'il pouvait dire comme on a chanté, pour être revêtu de lui et pour être à son image et pour être saint comme lui. Et j'apprécie vraiment le changement dans les saints. C'est pas juste pour qu'on chante oh Seigneur, pour être saint comme toi. Changer les paroles du chant
So we have all to behold him.
Pour être, pour le saisir, mais aussi pour être saint comme lui, pour être comme toi, pour te saisir et pour être saint. Mais louer le Seigneur, et c'est ce que nous voulons tous faire dans notre service. Être saint, c'est être comme lui, et pour être comme lui, tu dois le saisir. Si tu ne le saisis pas, tu ne sais pas comment être saint. Ce n'est pas juste une doctrine qui nous enseigne comment être comme lui, mais la manière d'être saint, c'est en le voyant. Et on doit tous prier, Seigneur, apparais-moi. Apparais-moi aussi avec mes yeux intérieurs et ma compréhension et ma lumière. Il nous a donné l'onction pour comprendre. Qu'est-ce que ça signifie? À ce point, souvent, je suis assez effrayée de mes interprétations. Je dis Seigneur, mais je me dis si je me tiens devant lui, le Seigneur m'éclaire. Et le but, en vivant d'une telle manière, c'est pas juste toi, mais c'est pour marcher à son image, dans son royaume. Et le but, c'est vraiment cela. On doit voir cela dans tous les frères et sœurs qui puissent vraiment arriver à maturité. Donc, on doit vraiment poursuivre cela, aspirer à cela. Et Pierre nous donne vraiment un encouragement. Si tu n'es pas corrigé, comment vas-tu avancer? Mais la parole de Dieu qui nous a appelés à la perfection et à la gloire, ça, c'est la manière dont Paul a marché et a servi. Et vous, mes frères, comme les imitateurs à l'image de Christ, en Jésus-Christ. Dans 1 Thessaloniciens 2, 14. Je demande, comment va l'Église à Feingen? Je ne demande pas, comment va l'Église à Feingen en Jésus-Christ? Mais Paul était tellement conscient que c'était en Jésus-Christ. Moi, je suis juste conscient du lieu de Fountain Valley, de Mountain View, de Sunnyvale, de Toronto. Mais on doit ajouter un autre mot. Comment va l'Église à Toronto en Jésus-Christ? Parce que si c'est juste l'Église à Toronto, sans être en Jésus-Christ, je ne suis pas trop sûre quelle sorte d'Église ça va devenir. On n'est pas juste l'Église à Fountain Valley. On est l'Église en Jésus-Christ à Fountain Valley. Waouh, quel magnifique frère. Quel merveilleux frère. On doit vraiment apprendre. Louer le Seigneur.
Amen.
Ensuite, il continue.
But we, brethren, having been taken away from you for a short time in person,
pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur. Le cœur était là. Peut-être que je ne suis pas à Feingen, mais mon cœur y est. Et souvent, mon esprit y est aussi, en esprit, en prière, pour les frères, pour tous les saints. C'est très important. Peut-être que tu n'es pas là physiquement. Exactement comme disait Paul. Il n'était pas là, il n'était pas à Corinthe pour, au milieu de ses problèmes, mais son esprit se réunissait avec eux. Et son cœur était là. Nous avons eu d'autant plus ardemment le désir, le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul. Une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Il avait une bonne raison de ne pas y aller. C'était pas une raison. Oh, je suis trop fatiguée. Ou oh, il fait trop froid. Oh, puis l'avion. Trop de troubles. Oh, puis j'ai tellement d'autres choses à faire. J'ai tellement d'excuses. Mais en fait, il y en a une seule. C'est que l'ennemi m'en empêche. Ça montre combien nous sommes courts dans notre compréhension spirituelle, dans nos actions spirituelles et dans verset 19. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie, notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? C'est vraiment important d'agir d'une telle manière, de venir à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas juste une question de faire. Ce n'est pas juste de servir pour Dieu, mais de servir par Christ, de servir dans le Saint-Esprit, de servir en revêtant Christ, le Christ vivant. C'est magnifique. C'est comme ça que Paul pouvait dire pour moi, vivre, c'est Christ. Et son désir, c'était constamment, et même en toute chose, que Christ soit magnifié. Il ne priait pas que les saints soient clairs, mais il priait, car Christ était constamment sa priorité. Peut-être qu'on a raison, mais notre but, ça doit être de manifester Christ, d'exprimer la beauté de la sainteté. C'est bien plus attractif que n'importe quoi d'autre. Juste un mot clair. Je me rappelle d'un frère qui m'avait dit, es-tu clair? Toutes les 3-4 phrases, il disait, est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que tu comprends? Est-ce que c'est clair pour toi? On veut exprimer Christ. C'est ça notre véritable service. Et c'est ça, en fait, notre véritable service des sacrificateurs. Parce que le but, c'est pas juste que les gens soient clairs, mais c'est qu'ils voient la beauté de la sanctification. La beauté de la sainteté. C'est ça qui va le plus impressionner. C'est bien plus que juste avoir une interprétation, même si elle est juste. de la parole.
So, in the gospel,
dans l'évangile de Jean, on voit qu'on revêt, on porte la gloire de Dieu. Quand Christ est venu, il a exprimé la gloire du Père. Et il disait, celui qui m'a vu, a vu le Père. De même, quand il parlait, il exprimait le Père. Et quand il faisait une œuvre, c'était le Père qui la faisait en lui. Et pour nous aujourd'hui, Paul et les autres apôtres, tous ont eu cette même expérience. Même plus d'apôtres. Christ a été une vie, une personne vivante pour eux. Ils l'ont côtoyé. Mais des fois, on n'a pas cette foi en nous pour dire Seigneur. Paul avait même la hardiesse de dire, vous pouvez avoir une preuve de qui parle en moi. L'Esprit parlait au travers de Paul. Quel exercice. Dieu parlait dans sa sainteté. Non, le Seigneur parlait dans sa sainteté. Et Paul parlait par Christ. C'est pour ça. C'est pour ça que ce que Paul a dit était rempli d'esprit. C'est pour ça qu'il pouvait dire je tremble à l'idée de parler avec des paroles humaines, avec de la sagesse humaine. Mais il parlait par la sagesse de Dieu, par l'Esprit, afin d'être trouvé, non pas dans la sagesse des hommes, mais de Dieu. Nous pouvons servir comme ça. Alors, nous servons au travers de Christ, et Christ agit en nous. Et ça, ce sera la gloire de Dieu. Ça, c'est le service des sacrificateurs. C'est revêtir les ornements des sacrificateurs. De quoi s'agit-il pour que les épaulettes et le pectoral avec toutes les pierres. Parce que nous sommes différents. On n'est pas tous pareils. C'est magnifique de voir tous les saints qui sont transformés en ces pierres précieuses sur le pectoral. C'est pour ça que la Nouvelle Jérusalem est si belle. Mais déjà, tu dois porter les seins sur tes épaules. Il n'y a pas de différence. Les deux pierres sont les mêmes. Et les noms sont donnés par la naissance. Il n'y a pas un privilège au-dessus d'un autre. Mais c'est donné par naissance. Ceux qui servent. Il n'y a pas de partialité. Tu ne peux pas dire « Ah, je préfère celui-là. Ah, j'ai un soin particulier pour elle parce que j'aime bien ses enfants. » Je ne sais pas. Qui d'autre ? Non. Non, on a tous la même portion. Et particulièrement le saint, le souverain sacrificateur, il porte sur ses épaules tous à la même enseigne, tous de la même manière. Mais quand nous bâtissons l'Église, on a tous des dons différents. Regarde. J'ai des membres différents. J'ai des mains, des bras, des jambes, un corps. Mais si j'étais fait qu'avec des yeux, alors je serais un monstre. Mais on a différents dons, différentes fonctions, différentes portions, différents arrière-plans. Oui, le Seigneur, il ne nous demande pas d'être les mêmes, mais on est vraiment sur ses épaulettes. On doit porter, si on a le pour fardeau l'Église, alors on doit porter tous les saints sur nos épaules. Tous à la même enseigne. On a beaucoup à apprendre dans l'édification parce que bâtir la maison, on peut le faire avec tellement de partialité, de préférence. On n'est pas pour l'uniformité de tous les saints, mais on doit tous être saints. On doit tous être portés sur les épaules. Et on a un merveilleux souverain sacrificateur. Merveilleux. On a beaucoup à apprendre. Bien sûr, il n'y a que le souverain sacrificateur qui portait cela. Mais on doit être participant de cela. Et son fardeau, il le partageait avec les sacrificateurs. Et demain, on peut vraiment voir le l'Urim et le Thummim. C'était vraiment des poches. Il n'y avait pas trop de poches, juste deux. Si tu as trop de poches, tu ne sais plus où tu as mis tes choses. Le sacrificateur n'avait pas des poches derrière, devant, au milieu des jambes, encore sur le pectoral. Non. Juste une. Qui est très précieuse et ce qui est dans cette poche, c'est l'Urim et le Thummim. Tu ne peux rien trouver comme explication de ce que sont ces deux choses, mais elles représentent le magnifique esprit qui est en nous, qui nous donne la lumière, la vérité. L'onction va t'enseigner toutes choses, pas des choses étranges. Quand les gens lisent la Bible, ils trouvent qu'il y a des choses étranges. Quand quelqu'un lit tellement d'heures, quand tu lis la parole, c'est pas possible que le Seigneur t'y dise des choses étranges. Il va pas te dire de quitter l'Église. C'est étrange. Je suis désespérée quand j'entends ça. Mais regarde. L'onction ne va pas te dire « Oh, regarde, tel et tel et tel et tel. » Ils sont bizarres. Mais non. Elle va nous enseigner toutes choses. L'esprit magnifique. Seigneur, comment est-ce possible que je sois née de nouveau? Comment est-ce que je peux être né une deuxième fois? Je ne sais même pas le Seigneur m'a répondu que c'était comme l'esprit, il est comme le vent, il vient, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Aucun des apôtres n'a tout expliqué. Au commencement était Dieu. Au commencement était Dieu et la parole était Dieu et au début de Jean. Il n'explique pas tellement au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il n'explique pas. Mais la lumière est la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent pas vaincre. Ça, c'est le Pourim. Cette lumière. Mais souvent, l'esprit est un mystère en nous. On ne peut pas complètement comprendre. Cet Urim et ce Pourim sont vraiment mystérieux. C'est un esprit de sainteté. C'est pas juste le Saint-Esprit. S'il est juste saint, bon bah je peux pas l'atteindre. Mais dans Romains 1, il dit que Christ a été désigné par l'esprit de sainteté. Romains 1, 4. Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Il vient pour que nous soyons perfectionnés à l'image de Christ. C'est pas un esprit sans un esprit de sainteté. Comment pourrait-on être complètement changé à son image? Et dans Romains, on voit vraiment cela. Amenons tout cela au Seigneur pour avoir cette onction, cette révélation. Amen. Oui, Seigneur. Que le Seigneur nous sanctifie complètement.